les voies de l'égalité. Dans un contexte où les discriminations continuent d'impacter profondément les parcours scolaires et sociaux, certaines structures œuvrent chaque jour pour garantir l'égalité des chances. L'association La Paix de l'Espoir s'inscrit dans cette dynamique en accompagnant des enfants et des familles confrontées à différentes formes d'exclusion. Pour mieux comprendre les enjeux, les défis et les espoirs portés par cette association, nous recevons le directeur général et la vice-présidente de l'antenne Apersan. Bonjour.
Bonjour. Bonjour, donc Béatrix Delors, je suis maman d'une personne accompagnée qui s'appelle Florent, qui a 29 ans, qui est au foyer à Parmain. Et donc je suis membre du conseil d'administration et vice-présidente de l'association sur le versant famille et communication.
Laurent Biard, je suis directeur général donc, de l'association et j'y travaille depuis un peu plus de 25 ans. Alors l'association L'Espoir, qui s'appelait l'association de parents d'enfants déficients, L'Espoir a été créée en 1964 par des familles persanaises qui étaient confrontées par des situations de handicap de leurs enfants. Et un médecin de ville de Persan les a regroupés, et ces enfants-là qui ne pouvaient pas être accueillis au sein des écoles de Persan. Au fur et à mesure, ils ont ouvert un lieu d'accueil sur Champagne-sur-Oise, et puis ensuite ont pu créer un institut médico-éducatif sur l'île Adam. Et cette association, donc La Paix de l'Espoir, créée en 1964, a vraiment été une association issue des familles et d'un médecin de Persan. Donc c'est assez significatif quand même. Donc aujourd'hui, l'association, c'est une association de parents. Et donc ce sont des parents qui ont un proche, des enfants, en situation de handicap. Il y a une vingtaine d'administrateurs par an. Ce conseil d'administration donne des grandes orientations associatives, éducatives, pédagogiques. Et les décisions qui sont prises au sein de l'association sont co-construites avec les professionnels. Donc c'est vraiment un vrai croisement entre les familles, les parents et les professionnels. Et les professionnels apportent l'organisation, les outils, les méthodes, et les parents, leur sensibilité et leur expertise de parents. Et c'est par ce croisement, par cette rencontre entre parents et professionnels qui fait notre identité, qui est maintenant l'association de parents d'enfants différents, L'Espoir, puisqu'on a changé de nom il y a maintenant un an, pour évidemment être plus large et puis être dans la déficience, mais être différent. Et donc notamment sur cette thématique de la discrimination, nous on préfère se dire différent avec des besoins singuliers.
Quelle forme de discrimination observez-vous le plus fréquemment chez les enfants que vous accompagnez ?
Alors tout d'abord, nous observons chez les enfants des difficultés d'accès aux droits communs, tout simplement, et notamment l'accès aux soins et aux structures de la petite enfance et à l'école. À un moment donné, voilà, les parents sont confrontés à « Tiens, mon enfant, il ne réagit pas, il n'a pas forcément les mêmes habiletés qu'un enfant de son âge. » Et ce qui fait que, très souvent, eh bien, les premières difficultés commencent. Les médecins, l'accès aux soins, c'est difficile, puisque les professionnels de santé ne sont pas forcément aguerris pour déterminer la pathologie ou les difficultés. Quand on arrive dans le temps de la maternelle, eh bien, tout de suite, les enseignants se disent « Oh là là, comment je vais faire? Ça va être difficile. » Donc, la première discrimination, c'est dans la petite enfance. C'est là où ça se joue aussi. Et c'est là où ça se détermine, puisque après, tout va s'enchaîner ou pas.
Vous êtes parent d'un enfant qui est accompagné. Comment ça se passe au quotidien, pour vous et pour lui aussi?
Alors, moi, mon fils, il est désormais adulte, puisqu'il a 29 ans. Donc, il est pris en charge dans un établissement pour adultes. Il ne côtoie plus le milieu scolaire depuis quelques années.
Quand il était petit...
Alors, il a côtoyé le milieu scolaire. Alors, effectivement, comme il a quand même déjà 29 ans et qu'il y a quand même quelques années qu'il y était, effectivement, il a vécu des situations difficiles. Ça, c'est sûr. Mais je crois que ça s'est beaucoup amélioré. Ce qui nous a, nous, le plus abasourdi, c'était qu'il était dans un collège, il était dans le fonctionnement Ulysse. C'est un dispositif qui est mis en place pour aider les jeunes en situation de handicap comme lui. Et bien en fait, il s'est retrouvé dans une situation hyper compliquée. On lui donnait plein de devoirs, plein de choses à faire, il n'y arrivait pas.
Mais normalement, ça devrait peut-être un peu le contraire, moins de devoirs peut-être, non?
Et ben voilà. Comme je vous dis qu'il a 29 ans, c'était il y a quelques années, c'est peut-être des maladresses commises à l'époque. D'accord. Désormais, je pense que c'est différent.
Et comment vous avez géré la situation?
Il était donc en classe Ulysse et on a trouvé la solution de se diriger vers un IME. Et donc là, tout a changé. D'accord. Notre vie a changé, je dirais, voyez-vous.
D'accord. Il a réussi à s'épanouir.
Alors, en fait, si vous voulez, la différence, je vais vous expliquer la différence entre le milieu scolaire et l'IME parce que ça me semble important. Dans le milieu scolaire, on vous demande des performances, voilà. Les performances sont attendues pour l'âge que vous avez. Effectivement, eh ben, y a plein de performances que vous n'avez pas. Et c'est assez démoralisant. Quand vous arrivez à l'IME, c'est vraiment tout le contraire. Le regard est vraiment différent. À l'IME, regarde ce que vous savez faire et on s'appuie sur ce que vous savez faire pour vous améliorer. Et donc on vous valorise, enfin vous êtes des associations favorisantes. Donc ça ne peut qu'aller bien en fait.
L'association intervient-elle principalement dans le cadre de discriminations liées au handicap, à l'origine sociale, culturelle ou à d'autres facteurs ?
Nous intervenons principalement dans le cadre de l'inclusion liée au handicap. Mmh. Alors nous, la discrimination, c'est, on le met en parallèle avec l'inclusion.
Oui.
C'est-à-dire qu'on travaille la discrimination eh bien, en faisant des actions d'inclusion. Le milieu scolaire est en pleine évolution hein, en ce moment, depuis 3-4 ans, puisque depuis quelques années, l'accent est mis sur l'accueil des élèves en situation de handicap dans le milieu scolaire, beaucoup plus qu'auparavant. Et pour autant, les enseignants sont confrontés à des situations qui les désarment, encore aujourd'hui. Ils sont assez peu formés, ou pas formés, pour adapter leurs pratiques enseignantes pour ce public. Alors il y a des dispositifs, hein, des unités, des ULIS, il y a des classes externalisées, il y a plein de dispositifs qui se mettent en place dans les écoles, mais pour autant les enseignants, quand ils sont rentrés dans ce métier de professeur des écoles, de professeur des collèges, ne se sont pas engagés dans cette profession forcément pour s'occuper d'enfants en difficulté, enfin des élèves en situation de handicap ou avec des troubles du comportement. Et c'est vraiment une rencontre assez difficile. Mais depuis quelques années, on sent une vraie évolution quand même.
Comment se passe l'accompagnement avec les familles et les enfants ? Est-ce que vous intervenez en milieu scolaire, par exemple ?
Alors, oui. Tout à fait. Comment on accompagne concrètement les enfants au sein de nos établissements.
Voilà,
donc, notamment, il y a donc le CMPP de Persan-Beaumont et nous avons un IME L'Espoir à l'Isle-Adam et un IME du Bois d'en Haut à Hennery, à côté de Pontoise. Et c'est par l'intermédiaire de ces trois institutions que nous accompagnons à peu près 350 enfants.
Donc,
ce qui n'est pas anodin quand même.
Oui.
Ce que nous faisons, nous, pour que ces enfants soient... le moins possible victime de discrimination, comme vous dites, on se pose sur une prise en charge individuelle, éducative et institutionnelle. C'est-à-dire que déjà, il faut sécuriser l'enfant dans son environnement, puisqu'il a des déficiences intellectuelles, il a des troubles du comportement, soit avec des troubles autistiques, des troubles de l'affect. Il faut absolument sécuriser l'enfant par une écoute bienveillante, confidentielle, où on va travailler sur ses émotions. Nous allons aussi évaluer la situation et adapter notre accompagnement au quotidien par un accompagnement personnalisé avec du personnel formé. Nous faisons aussi un renforcement de l'estime de soi et du pouvoir d'agir. Parfois, les élèves en situation de handicap dans les classes, on ne leur demande pas trop leur avis, parce qu'ils n'arrivent pas forcément à parler. Il y a des non-verbaux chez les enfants. Donc on les met un peu de côté. Et c'est vrai que l'estime de soi en prend un coup, hein, et notamment le pouvoir d'agir. C'est-à-dire que qu'est-ce que je peux faire au sein de la classe, au sein de l'école ? Pas grand-chose, finalement. Donc nous, on travaille tout ça, et on travaille évidemment avec les familles pour qu'il y ait un relais au niveau du domicile aussi et au niveau des écoles. Ce qui fait qu'on amène progressivement l'enfant à être un peu plus autonome, à pouvoir, à un moment donné, communiquer, alors soit verbalement, mais pour beaucoup avec des pictos, avec des images, avec des outils adaptés, pour évidemment les amener progressivement vers une inclusion. Pas qu'à l'école, mais une inclusion aussi dans la cité, chez les commerçants, dans les clubs sportifs, etc.
Ça ne doit pas être évident de reprendre le relais à la maison. Comment est-ce que vous passez le relais aux parents ?
Alors, c'est un vrai travail de partenariat. C'est-à-dire que déjà, nos institutions sont ouvertes. Les parents peuvent venir dans les IME. Ils peuvent aussi également venir dans nos établissements pour adultes. Ce n'est pas fermé, ce n'est pas des établissements fermés, clos, vous savez, on n'est pas à l'hôpital. Hein, on est vraiment des établissements ouverts aux parents. Et nous avons aussi des professionnels qui vont rencontrer très régulièrement les familles, qui vont aussi aller au domicile si besoin, pour aller aider, transférer, mais aussi, c'est un partage, hein, c'est un vrai aller-retour entre la famille et les professionnels, où on va évidemment mettre les outils de communication, les outils qui vont faire que l'enfant, au sein de son domicile, va pouvoir acquérir quelques notions d'autonomie, se laver les dents, s'habiller, se laver, les choses essentielles, ça paraît évident pour tout enfant, hein, y a pas de souci. Nous, on a des enfants qui n'arrivent pas à ces apprentissages-là avant 8 ans, 9 ans, 10 ans, 12 ans. Et ce qui fait que, par des méthodes éducatives, en relais avec les familles, eh bien, on va séquencer le lavage de dents avec des petites images et qui vont dire « je prends ma brosse à dents, je mouille la brosse à dents, je mets le dentifrice, je me brosse ». Enfin, tout ça, c'est détaillé et qui permet à l'enfant, finalement, d'être un peu plus autonome vis-à-vis de ses parents et donc l'estime de soi, etc. Vous voyez, c'est oui. faire comme les grands frères ou les petits frères, etc.
Mais les professionnels vont aussi à la rencontre de la famille au domicile pour aider la famille si elle a des questions, s'il y a des choses qu'elle ne comprend pas, elle ne sait pas. Ils ne sont pas seulement de l'enfant, mais aussi de la famille, ils aident.
D'accord. C'est un vrai soutien, ça.
Ah oui.
Et combien de professionnels comptez-vous ?
Alors, l'association aujourd'hui accompagne des enfants, mais aussi des adultes. Et aujourd'hui, nous accompagnons environ 450 personnes dans nos établissements et 250 enfants au CMPP. Et nous avons 350 salariés. Et notamment sur Persan, on doit être à peu près entre Persan et l'Isle-Adam, on est quasiment plus de 200-250 salariés. Ce qui veut dire qu'on est déjà un employeur du territoire important, quand même. Et on donne beaucoup de travail à des personnels, d'ailleurs. Et on en est très contents, parce que c'est tout. Ils ont un confort et une qualité de vie au travail aussi, c'est important. Et donc, nous avons plusieurs types d'établissements. Sur Persan, notamment, puisque c'est le territoire où vous transmettez, nous avons donc un foyer de vie, qui est à côté de l'Oise. Le service d'accueil de jour avec hébergement Maurice Guyot, qui accueille 44 personnes adultes. Nous avons un ESAT, un établissement et service d'aide d'accompagnement par le travail, de 180 travailleurs sur Persan, accompagnés par des moniteurs d'atelier. Nous avons aussi un foyer logement, les Clématites, qui n'est pas très loin du village, où nous accompagnons une vingtaine de résidents dans leur logement. Et nous avons le CMPP, que je disais tout à l'heure, sur Persan-Beaumont. Et ensuite, nous avons un autre foyer de vie sur Bruyères-sur-Oise, spécialisé dans les adultes vieillissants, en situation de handicap. Nous avons aussi un autre SAJH, donc un service d'accueil de jour à l'horizon à Parmain, l'IME L'Espoir, que je vous ai dit tout à l'heure, et l'IME du Bois d'en Haut. Et nous avons aussi des équipes mobiles d'appui à la santé et aux besoins spécifiques, qui est actuellement sur Persan et demain, dans quelques semaines, sur Parmain. Donc vous voyez, on a tout un dispositif qui fait que nous accompagnons l'enfant dès son plus jeune âge, dès le diagnostic, dès les difficultés, par le CMPP notamment. D'accord. Et nous les accompagnons tout au long de leur vie, si c'est possible, bien entendu, s'il y a de la place.
Ça arrive que vous manquiez de place
Ah mais complètement. Sachez que dans le Val d'Oise, uniquement dans le Val d'Oise, il manque 1500 places pour les enfants en situation de handicap et 1500 places pour les adultes qui cherchent une solution dans des dispositifs ou des établissements. Donc vous voyez, il y a énormément de besoins et très souvent les familles, enfin je pense que Madame Delors pourra le confirmer, quand une famille trouve une place pour son enfant ou tout au moins une solution, c'est un vrai soulagement. D'ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure, entre l'ULIS et l'IME, il y a eu un vrai soulagement.
Ah oui. Pour votre enfant, comment ça s'est passé ? Est-ce qu'il est resté près de vous ou vous avez dû l'envoyer à l'autre bout de la France lorsqu'il était petit ?
Ah non, mais il est resté près de nous, puisqu'on a maintenu un dispositif scolaire handicap jusqu'à 14 ans. Et après, l'IME, c'était aussi à côté de chez nous, pas très loin. Donc là, on a pu rester proche.
Est-ce que vous faites de la sensibilisation auprès des enseignants et puis des autres enfants ?
Ah oui, alors, tout à fait.
Sur cette problématique.
Parce que si on travaille l'inclusion que tout seul, ça ne marche pas. Si on veut amener l'enfant à être élève, eh bien, à un moment donné, il faut aussi pouvoir se mettre à la disposition des enseignants, des ATSEM ou des AESH, des accompagnements spécifiques. Mmh. Et donc, nous, principalement, c'est la mission de nos deux IME, l'IME L'Espoir et l'IME du Bois d'en Haut, qui proposent des formations aux enseignants, qui proposent des formations aux AESH pour mieux comprendre les situations, mieux comprendre les troubles du comportement. On n'intervient pas dans les séquences d'apprentissage. Ça, c'est de la pédagogie des enseignants. Nous, on n'est pas qualifiés pour faire. En revanche, nous essayons de mettre un environnement autour de l'enfant qui porte bien les apprentissages que les enseignants peuvent faire. Et donc, nous avons même des financements pour ça, pour apporter des moments de sensibilisation, pour apporter des moments de formation aux enseignants. Et de plus en plus, ce qui est quand même à remarquer, l'éducation nationale ouvre de plus en plus leurs portes. Ça a été difficile. Il y a une dizaine d'années, quand on a commencé à initier ça, je ne vous cache pas que c'était difficile. Parce que, qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi vous venez ? Enfin, voilà, nous, c'est l'éducation nationale, vous, c'est le médico-social. C'était assez cloisonné. Il y a une vraie révolution en ce moment quand même.
Vous constatez quand même qu'il y a une belle évolution.
Ah
alors.
Oui,
tout à fait.
Oui.
Mais nous sommes vraiment sur la première marche d'un grand escalier quand même. Donc ne crions pas victoire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a l'éducation nationale qui nous demande, et on en est tout à fait d'accord évidemment, de collaborer, d'être partenaire. Et donc, nous intervenons de plus en plus dans les écoles, nous intervenons de plus en plus dans les collèges, un petit peu moins dans les lycées, puisqu'il y a, moins de besoins, mais il y en a. Et d'ailleurs, nous sommes aussi gestionnaires d'une équipe mobile d'appui à la scolarisation, qui est donc animée par l'Éducation nationale, avec nos professionnels, afin de pouvoir appuyer, accompagner les équipes enseignantes.
D'aller à la rencontre, en fait, des équipes qui le souhaitent, et ils peuvent aller les aider face aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer, ils vont sur le terrain.
Est-ce que vous avez une anecdote sur le parcours d'un enfant ou d'un adulte, sur son évolution ?
Alors, au sein d'une école, je pourrais vous évoquer un exemple. Il y avait un enfant qui avait des troubles de l'autisme dans une classe. Il était scolairement, ça allait. Il était dans la moyenne, dans la classe. Il n'y avait pas de difficultés dans les notes, dans les apprentissages. Pour autant, dans le comportement, ben, c'était beaucoup plus compliqué. Il pouvait sortir, monter sur la table, s'allonger par terre. Enfin, vous voyez, ces comportements qui sont difficiles à vivre pour les autres élèves ou les enseignants. Hein, attention. Hein. Notre intervention de l'équipe de la paix et de l'espoir, ça a été de déterminer qu'est-ce qui était les effets déclencheurs de ce trouble du comportement. Donc ils sont restés un moment en classe, ils ont observé, ils ont discuté avec les enseignants, ils ont discuté avec l'élève, avec les autres élèves, et finalement, ils se sont dit, tiens, il y a des arbres dans la cour, et avec le vent, les feuilles bougent et scintillent. Il y avait un stimuli visuel que l'élève, quand il était à côté du carreau, eh bien, le gênait et lui procurait des troubles du comportement. Ils ont mis un rideau, ils l'ont protégé de ce stimuli visuel, sensoriel, et ça s'est beaucoup diminué. C'est magique, hein ?
Oui,
on dirait que c'est magique.
C'est
vraiment
super, hein.
Et c'est ça qu'on apporte. C'est-à-dire qu'on apporte un éclairage différent, pour le coup, là, sur cet exemple, un éclairage différent sur, eh bien, qu'est-ce qui fait effet déclencheur et comment on peut, ou pas, des fois on n'y arrive pas, mais comment on peut adapter l'environnement pour que l'élève, eh bien, puisse ne plus avoir ce stimuli. Et donc, eh bien, il y a eu immédiatement un changement de comportement.
C'est un très gros travail. Au niveau des réseaux sociaux, est-ce que vous pensez qu'ils jouent un rôle dans les nouvelles formes de discrimination ?
On est confronté maintenant à des très jeunes, notamment au CMPP, où l'écran amène des difficultés scolaires et d'apprentissage. Et ça, je pense que ce n'est pas un secret. Je pense que tout le monde le sait aujourd'hui. Mettre un enfant, un tout petit, devant un écran, devant une tablette, devant la télévision, et encore la télévision, ce n'est pas interactif. Vous voyez, c'est quand l'enfant commence à interréagir avec le matériel numérique, ça peut poser des soucis. Enfin, ça pose souvent des soucis. Ça, oui, sur ces manipulations, quand ils sont trop jeunes, sur des tablettes, etc. Ça amène une désocialisation, ça amène des difficultés scolaires, ça amène des difficultés des apprentissages, et notamment dans la parole et dans le dialogue. Je ne dialogue plus avec maman, puisque de toute façon, je suis avec ma tablette. Et ça amène, et c'est confirmé, hein, ça amène des déficiences.
Quel dispositif juridique ou institutionnel pourrait être renforcé, selon vous ?
Aujourd'hui, je pense que nous avons suffisamment de dispositifs juridiques. On en a même beaucoup trop. Pour renforcer l'inclusion, donc lutter contre la discrimination, il faut maintenant changer les mentalités et que les différents acteurs institutionnels travaillent ensemble, se décloisonnent. Les secteurs de l'éducation nationale, du médico-social, des centres de loisirs, des associations culturelles ou sportives doivent travailler ensemble. Nous avons tous à gagner, à apprendre des autres. Même nous, le médico-social. Aujourd'hui, quand on rencontre des associations sportives, on apprend à nous aussi de nous adapter et à remettre en cause nos certitudes. Tout cela au bénéfice de tous les enfants et de tous les élèves, en situation de handicap ou non. Puisque quand c'est bénéfique, quand on travaille l'inclusion et la discrimination, c'est pour tous les sujets, que ce soit sur le handicap, mais sur d'autres discriminations qu'il pourrait y avoir, sociales, ethniques. C'est la même notion, la discrimination, mais c'est aussi la même notion, l'inclusion.
Je suppose que le rôle de la formation dans la prévention des discriminations est important. Les financements sont-ils suffisants ?
Alors je vous dirais, en tant qu'organisme gestionnaire d'établissements et d'institutions, bah bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est pas suffisant, bien entendu. Pour autant, pour ce que on nous demande de faire, parce que c'est un service public que nous délivrons quand même, hein, puisque nous sommes financés par l'Agence régionale de santé ou le Conseil départemental du Val-d'Oise. Nous, on est subventionnés à 100% par des fonds publics. Et donc, on a une mission publique. Nous essayons au mieux de faire notre travail, le mieux possible, en tout cas, avec les moyens qu'on nous donne. Mais c'est vrai que ce n'est pas à la hauteur du besoin. Et je pense que que ce soit les enseignants, ils diraient à peu près la même chose. Mais aujourd'hui, c'est sans fond, hein, le besoin, malheureusement.
Je vais me retourner vers vous, madame. Oui. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur votre expérience de maman?
Je suis vraiment contente de l'évolution qu'il y a eu ces dernières années. Ça, c'est quelque chose qui me... Ah oui, qui m'émeut.
Pour cette mère de famille, c'est la preuve qu'avec du soutien, de la solidarité et des structures adaptées, un avenir est possible pour chaque personne en situation de handicap. Son fils vit dans une résidence spécialisée où il peut évoluer entouré de professionnels. C'est un exemple parmi tant d'autres qui rappelle l'importance de ces structures et celles et ceux qui les font vivre.
Quand on est confronté à ces situations-là, on le sait, c'est pour la vie. Et déjà ça, c'est quelque chose qu'on ne s'imagine pas en tant que parent. On se dit, tiens, on va construire une famille, etc. Puis d'un seul coup, paf, on a un enfant en situation de handicap. Et on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer dans ma vie, quoi ? Vous voyez ? Et donc, c'est toute sa vie. Même si le fils Florian de Madame Delors, aujourd'hui, il n'est plus à la maison. Il a son appartement dans un établissement sécurisé. Il est... dans une forme d'autonomie, il a quitté ses papa-maman, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, c'est extraordinaire. Mais il ne pourra jamais vivre seul. Il va vivre au sein de son établissement, avec des professionnels, attentionnés, mais il aura toujours besoin de ses parents. Et ça, c'est quelque chose que, quand on n'est pas confronté à ce sujet, c'est difficile de comprendre.
Et puis, pour terminer, quels sont les projets futurs de la paix de l'espoir, hein ?
Concernant Persan, nous allons construire le nouveau CMPP sur Persan, rue Gambetta, devant le parc.
Quel regardez. Parc
Le parc Robespierre.
Robespierre, voilà. Voilà, ok.
Donc là où il y a les barrières, il y a des travaux actuellement, eh bien, ça sera le nouveau CMPP.
D'accord.
Ou qui sera bien plus agréable, avec une qualité d'accueil, et qui va vraiment, enfin en tout cas nous, on est très contents de pouvoir implanter ce nouveau bâtiment sur Persan. Donc d'ici, allez, on va dire 18 mois, et j'espère, si tout se passe bien, vous savez, les travaux, c'est toujours un peu compliqué, mais on espère vraiment de pouvoir accueillir tous les enfants, notamment de Persan, mais aussi de Beaumont. Enfin, on rayonne sur 20 km autour, hein, quand même, pour bien les accueillir. Et puis pour Persan, je pense que ça peut être super sympa d'avoir ce nouveau bâtiment aussi. Donc nous avons ce premier projet. Nous avons aussi, sur l'île Adam, nous allons aussi ouvrir cette année un petit internat pour les enfants qui sont en situation de handicap, parce que parfois, c'est pas facile à la maison. Parfois, l'enfant, il use beaucoup, 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 que les parents sont épuisés, et donc, ce petit internat de 8 places va pouvoir permettre de faire un peu pour souffler, pour apprendre aussi à l'enfant d'être un peu plus autonome, de travailler un peu différemment. Et donc, voilà. Et puis aussi, nous allons aussi ouvrir cette année sur l'île Adam un CESAD, donc c'est un service à domicile, comme disait tout à l'heure Madame Delors, pour aller au domicile des parents, pour faire des séances, des séquences d'apprentissage, pour aider à ce que la vie familiale se passe, on va dire, le mieux possible, même si le mieux possible, c'est toujours avec des difficultés, bien entendu. Et puis, sur Parmain, nous allons ouvrir un lieu d'accueil, d'écoute et de conseil et d'aide aux parents, aux proches, qui ont un enfant en situation de handicap ou un adulte, et qui ont besoin, à un moment donné, d'échanger, qui ont besoin d'avoir des informations. Et donc ça va être, allez, j'espère, avant la fin de l'année, opérationnel pour pouvoir accueillir les parents et les familles qui sont dans ces situations-là.
C'est un témoignage qui rappelle que derrière le handicap, il y a avant tout des vies, des familles et des espoirs, et que grâce à l'engagement des associations, des professionnels et des parents, des solutions existent pour accompagner chacun vers sa place dans la société. Bien entendu, ceci n'était qu'une expérience sonore. Les voix de l'égalité.